est 23h à Washington, 5h à Paris, 4h en temps universel. Une nouvelle demi-heure d'information qui vous attend sur RFI. Marion Cazanov, bonjour.
Bonjour Edouard.
Votre journal d'abord est ce début d'une guerre commerciale lancée par Donald Trump.
Le président américain valide des droits de douane imposés au Canada, au Mexique et à la Chine. Ces trois pays ont aussitôt répliqué. Et les prochains sur la liste de Washington, ce sont les pays de l'Union européenne. Deux semaines de trêve entre Israël et le Hamas. Les libérations d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens se sont poursuivies. Hier, le poste frontière de Rafah lui a rouvert et a permis l'évacuation de blessés palestiniens vers l'Égypte. En RDC, le sud Kivu, sous la menace du 23, soutenu par l'armée rwandaise. La situation dans l'Est suivie avec inquiétude par les Quinois. Reportage dans ce journal. François Bayrou prêt à risquer la censure. Le Premier ministre français compte passer en force à l'Assemblée pour l'adoption du budget. Et puis le peuple Sami menacé par des projets énergétiques, parfois même des projets présentés comme écolos. Ce peuple autochtone du nord de l'Europe voit son territoire diminuer. La guerre commerciale est lancée. Comme promis, le président Donald Trump valide des droits de douane, taxe de 25% sur les importations venues du Mexique et du Canada, taxe de 10% pour la Chine. Ces droits devraient entrer en vigueur mardi, après-demain au plus tôt. Et aussitôt, les pays concernés ont répondu et affirment qu'ils vont faire de même. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum dénonce aussi une calomnie de son homologue américain. Ce dernier a déclaré que le gouvernement mexicain avait des liens avec le narcotrafic. Donald Trump assure justement imposer ses droits de douane pour lutter contre le trafic de fentanyl venu du Mexique et également contre les arrivées illégales de migrants. Et la prochaine cible de Washington pourrait être bientôt l'Union européenne, Karine Auton.
Donald Trump est mécontent de la balance commerciale des produits avec l'UE qui est en défaveur des États-Unis. Et il pourrait se venger sur certains secteurs qui dépendent de leurs clients américains pour une bonne partie de leur chiffre d'affaires. Prenez les viticulteurs français. Les États-Unis, c'est 22% des vins et spiritueux français à l'export, par exemple. Et la filière a déjà eu un avant-goût de ce qui pourrait se passer lorsque Donald Trump avait mis en place une surtaxe de 25% sur le vin français et espagnol, pas italien, pendant 2 ans, suite au conflit entre Airbus et Boeing. Les ventes avaient alors baissé de 30%, jusque quand les droits de douane avaient été annulés par Joe Biden. Les médicaments français, irlandais, belges et allemands pourraient en souffrir aussi. Et puis Donald Trump a déjà laissé entendre que les Européens n'achetaient pas assez d'automobiles américaines. Il pourrait prendre des mesures de rétorsion contre les voitures allemandes et italiennes. Enfin, l'huile d'olive espagnole avait déjà été dans son collimateur au cours du premier mandat et elle est au cœur d'une bataille juridique à l'OMC. Il n'y a pas de raison que Donald Trump l'épargne cette fois-ci. Karine Auton, New York, RFI.
Les guerres commerciales n'ont pas de vainqueur, a prévenu Pékin. La Chine compte aussi contester ses droits de douane devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Alors que cette guerre commerciale commence, donc l'administration américaine s'occupe d'un autre dossier brûlant, la gestion du canal de Panama. Donald Trump veut en reprendre le contrôle. Son chef de la diplomatie, Marco Rubio, est arrivé au Panama pour discuter de ce sujet. Washington va aussi commencer les négociations pour la seconde phase de la trêve entre Israël et le Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se rend aux États-Unis. Il rencontrera demain l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, et sera aussi reçu par le président dans la semaine. Benjamin Netanyahou deviendra ainsi le premier dirigeant étranger à se rendre à la Maison-Blanche depuis le retour du milliardaire au pouvoir. La première phase de cette trêve donc entre dans sa troisième semaine. Sur les 6 mois de la première phase, sur les 6 de la première phase qui comprend des libérations d'otages israéliens, 3 ont été libérés hier contre 183 prisonniers palestiniens. Certains sont retournés à Gaza où ils ont été accueillis par des scènes de liesse, scènes de joie à Khan Younes dans le sud. Le sud de l'enclave où un autre volet de l'accord Israël-Hamas est entré en vigueur, la réouverture du point de passage de Rafah frontalier avec l'Égypte. Il a permis de faire passer des blessés et des patients atteints de maladies graves qui vont se faire soigner au Caire. Des patients rencontrés par Rami Al-Megari juste avant leur départ. Son reportage avec Sami Bourlifa à Jérusalem.
Le bus est prêt à partir. Om Khalil a prié fort pour ce moment. Son fils a 2 ans et souffre d'une malformation cardiaque congénitale. Elle l'accompagne en Égypte. Mon Dieu, quel soulagement! C'est une merveilleuse surprise. Le petit va enfin pouvoir être soigné. À bord du bus, beaucoup d'enfants atteints de cancer et d'autres pathologies graves, mais aussi des blessés avec de lourdes séquelles, comme Ala, survivante d'un bombardement israélien. Je suis très heureuse, moi aussi. À l'étranger, ils vont pouvoir me poser des prothèses de bras. Quand je reviendrai, je pourrai enfin porter mon fils. Pour certains, c'est la déception. Le jeune Ahmed était sur la liste pour partir, mais son autorisation vient d'être révoquée. J'ai un éclat dans l'œil, j'ai perdu la vue. J'avais espoir de me faire opérer. On a été autorisé à monter dans le bus, mais au dernier moment, les Israéliens ont refusé d'accorder une autorisation à ma mère pour qu'elle m'accompagne. Et comme je suis mineur, je n'ai pas le droit de partir seul. Mohtaz et sa famille font face au même problème. Mon fils doit aller se faire soigner en Égypte avec sa mère. Mais notre petite dernière, qui a 15 jours, n'a pas eu d'autorisation pour rester avec sa mère. Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Un nourrisson doit avoir le feu vert des Israéliens pour être autorisé à rester avec sa mère. Rami Amir Ali Gaza, Sami Bourifa, Jérusalem, RFI.
L'armée israélienne poursuit dans le même temps une opération en Cisjordanie occupée. L'autorité palestinienne déplore 5 morts dans des frappes israéliennes survenues près de Jenin hier. En tout, cette offensive depuis le 21 janvier a fait 25 morts toujours selon les chiffres palestiniens. En RDC, la menace du M23 soutenue par le Rwanda pèse sur la province du Sud Kivu, ce qui conduit des milliers de personnes à s'enrôler aux côtés de l'armée congolaise. Un mouvement de recrutement a été lancé à Bukavu alors que le gouvernement congolais a confirmé hier les chiffres de l'ONU qui parlent d'au moins 700 morts et 2800 blessés à Goma dans le Nord Kivu après les affrontements entre les FRDC et le M23. Alors qu'un calme précaire est revenu ces jours-ci à Goma, dans la capitale, beaucoup ont suivi et continuent de suivre avec angoisse les événements dans l'Est. À Kinshasa, Alexandra Brangeon.
Originaire du Nord Kivu, Gisèle vit à Kinshasa depuis une dizaine d'années. Toute sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, ses cousins vivent à Goma. Lundi dernier, elle a perdu tout contact avec eux, le début de plusieurs jours d'angoisse.
Lundi à 12h, je n'avais plus de contact avec eux et ça m'a tellement inquiétée. À chaque fois, j'avais mon téléphone à la main, je me disais peut-être qu'une soirée, ils vont m'appeler ou bien ils vont me faire un message. Mais c'était un silence absolu. Je n'arrêtais pas de me poser de questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas une balle perdue chez eux? Est-ce qu'il n'y aurait pas une bombe qui va tomber dans la parcelle et qui va les emporter tous? Je ne dormais pas.
Même situation pour Christina, dont une vingtaine de membres de la famille sont toujours à Goma. Et même si aujourd'hui les communications sont rétablies, l'angoisse est toujours présente.
Aujourd'hui, je les appelle le matin, la journée, le soir pour m'assurer que ça va. Les inquiétudes restent par rapport à l'avenir parce qu'on ne sait pas où est-ce que tout cela va mener. En ce moment, nous réfléchissons à l'idée d'évacuer surtout les petits-enfants. On ne peut pas vivre normalement parce qu'on est loin et on se sent un peu coupable parce qu'on s'est dit, ben, nous ici quand même ça va, mais là-bas ça ne va pas. On s'est fait une sorte de carapace, on s'est dit, bon, ça va passer. Ouais.
Depuis, toutes les deux sont suspendues à leur téléphone et à la moindre information. Alexandra Branjon, Kinshasa, RFI.
L'Ukraine a essuyé de nouveaux bombardements russes, bombardements hier dans plusieurs régions du pays qui ont fait 15 morts. Kiev et Moscou s'accusent aussi mutuellement d'être responsables d'une frappe dans la région russe de Koursk, dans la partie que contrôle l'armée ukrainienne. 4 personnes ont été tuées après ce bombardement dans un établissement servant de refuge. RFI 5h09 à Paris. En France, le Premier ministre risque la censure. François Bayrou va avoir recours au 49.3 pour faire adopter les budgets de l'État et de la sécurité sociale. Cet article de la Constitution lui permet de les adopter sans passer par le vote des députés. Et il a annoncé le recours au 49.3 dans le journal La Tribune dimanche. Aurélien Devernois, ce n'est pas pour autant une surprise.
En l'absence de majorité en faveur du gouvernement à l'Assemblée, François Bayrou n'a en réalité guère le choix. Le nouveau Front Populaire a d'ores et déjà annoncé qu'il voterait contre le texte et pas question de laisser son destin dans les mains du Rassemblement National. Le Premier ministre peut en revanche espérer se sortir de la motion de censure qui sera déposée juste après le 49-3. Le RN n'a pas encore fixé sa position, ce sera lundi, et surtout le Parti Socialiste est susceptible de vouloir épargner le gouvernement, même si les divisions restent fortes à ce sujet au sein du PS. Dans son interview, François Bayrou semble toutefois confiant, se félicitant du dialogue qu'il a fait naître ces dernières semaines et se projetant sur la suite. Il explique notamment être prêt à modifier à tout moment la trajectoire budgétaire du pays si les prévisions retenues s'avéraient fausses. Et le Premier ministre poursuit son analogie avec l'Himalaya, évoquée en début de mandat. Il y a 8 sommets à gravir, explique-t-il, citant l'éducation, la santé ou l'immigration. Mais le camp de base a été établi avec l'accord sur le budget, poursuit François Bayrou. Attention toutefois au risque d'avalanche lors du vote sur la censure, mercredi ou jeudi.
François Bayrou qui suscite l'inquiétude d'associations concernant le projet de loi sur la fin de vie. Il a décidé il y a quelques semaines de scinder ce projet en 2 sujets différents. L'un sur l'aide à mourir, l'autre sur les soins palliatifs. La Convention citoyenne à l'origine du texte premier demande au président Emmanuel Macron de se prononcer sur le sujet. Le gouvernement indien tente, lui, de stimuler une économie morose avec des baisses d'impôts, baisse générale de l'impôt progressif sur le revenu, notamment destiné à la classe moyenne. Pour en bénéficier, il ne faudra pas gagner plus d'1,2 million de roupies par an, soit un peu plus de 13 300 euros. New Delhi espère ainsi inciter cette classe à consommer plus, à épargner plus, à investir plus. Des économies bienvenues pour ces Indiens, issus de la classe moyenne rencontrée par Léa Ojal à New Delhi.
Pour les 570 millions de personnes qui constituent la classe moyenne en Inde, l'annonce des baisses générales de l'impôt sur le revenu est une promesse pour l'avenir. Pooja Sharma est une jeune entrepreneuse concernée par cette mesure et elle compte bien faire des économies.
Nous avons déjà beaucoup de choses à payer. Parce que nous sommes de la classe moyenne, nous payons les transports et pour plein de choses qui ne sont pas des privilèges. Donc oui, si je fais des économies sur ces impôts, je pourrais avoir assez d'argent pour le dépenser ailleurs.
Pour Simran Chabra, fonctionnaire à New Delhi, la classe moyenne est la grande oubliée des politiques en Inde.
Ce bénéfice pour la classe moyenne est un grand pas, parce qu'ici, personne ne pense à la classe moyenne. Ici, on donne soit aux plus pauvres, soit aux plus riches.
Ces mesures, si elles sont appliquées, feraient perdre environ 11 milliards d'euros de recettes pour le gouvernement. Les nouvelles règles doivent être présentées au Parlement au cours de la semaine à venir. Léa Ojal, New Delhi, RFI.
Ils sont considérés comme la dernière population autochtone d'Europe. Les Samis vivent dans les toundras et forêts de Laponie et de Russie. Leur activité principale est l'élevage de rennes, mais leurs pratiques ancestrales, leur mode de vie est menacé par le réchauffement climatique et également par la transition verte. C'est ce que conclut un rapport d'Amnesty International avec le Conseil Sami, Igor Strauss.
Le changement climatique menace doublement l'existence du peuple autochtone Sami, s'inquiète Amnesty International dans un rapport intitulé « Transition équitable ou colonialisme vert ». Les variations climatiques, 3 à 4 fois plus rapides en Antarctique que sur l'ensemble de la planète, recouvrent le sol d'épaisses couches de glace qui empêchent les rennes d'accéder aux lichens et alimentent une concurrence entre éleveurs autour des espaces de pâturage. Mais les Samis sont également victimes des projets énergétiques et d'extraction de ressources en Laponie au nom de la transition énergétique. En Norvège, la création d'un parc éolien sur des terres utilisées par les éleveurs samis a été déclarée illégale par la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire du pays, qui a jugé qu'il violait les droits des samis. Le rapport d'Amnesty pointe également les conflits liés au projet d'exploitation d'une mine de nickel en Suède et à la prospection minière en Finlande, dans des zones traditionnellement consacrées à l'élevage de rennes. L'ONG et le Conseil Sami réclament donc aux autorités des pays nordiques de renforcer les consultations des populations samis et de solliciter leur accord avant d'autoriser la construction d'infrastructures susceptibles d'empiéter sensiblement sur leurs droits.
Igor Strauss du service climat-environnement de RFI. Il est 5h13 à Paris, 4h13 en temps universel. On reste ensemble pour une quinzaine de minutes encore, un tour du monde de l'actualité avec nos chroniques et nos reportages.
Marion Cazanov.
Dans la chronique défense, on revient ce matin sur ce départ historique des troupes françaises du Tchad. L'armée française a rétrocédé sa dernière base il y a quelques jours. On sera au Chili pour le reportage international. Le Chili qui se dispute avec le Pérou la paternité d'un cocktail très apprécié sur le continent, le Pisco Sour. Dans la chronique Vivre ailleurs sur l'expatriation, on parlera des défis auxquels font face les professeurs qui enseignent dans les lycées français de l'étranger. Et puis quand les animaux perçoivent les émotions d'autres espèces, on y revient dans C'est dans ta nature, tout cela avant le retour de l'actualité africaine sur RFI. La présence militaire française continue de se réduire en Afrique de l'Ouest avec une nouvelle étape cette semaine, le départ des troupes françaises du Tchad. Elles ont rétrocédé leur dernière base militaire, le camp d'Adjikossé à N'Djamena. C'est donc la fin d'une présence historique dans le pays, Franck Alexandre.
150 ans d'une présence militaire continue. 1885, c'est la course au clocher, selon la formule de l'époque, rappelle l'historien Christian Bouquet. Trois colonnes militaires françaises s'élancent alors à travers l'Afrique.
Une qui partait du sud, une qui partait de l'ouest et du Sénégal, et l'autre qui partait du nord, c'est-à-dire d'Algérie. Au niveau de la bourgade qui allait devenir N'Djamena, après s'être appelée Fort Lamy, c'est cette dernière colonne, en fait, qui avait été impressionnée par les fameux guerriers du désert. Alors, à partir de là, il y a eu une certaine admiration pour ces gens qui se battaient et qui n'avaient pas peur de mourir.
Lieutenants et capitaines français, véritable colonne vertébrale d'une administration coloniale, vont façonner l'immense territoire tchadien. L'indépendance n'y changera rien.
Après l'indépendance de 1960 et pendant 3 ans, toute l'immense région nord du Tchad, c'est-à-dire le Borku-Enedi-Kibesti, avait comme préfet un colonel français, le colonel méhariste Jean Chapelle. Et puis ensuite, assez rapidement, à la fin des années 60, l'instabilité était grande et on a fait revenir cette fameuse mission de réorganisation administrative en 69 et on a renvoyé des administrateurs coloniaux, souvent dans leurs anciens postes, pour essayer de rétablir l'ordre.
Le Tchad va servir de creuset à l'armée française. Opération Bison, Taco, puis Manta contre la Libye du colonel Kadhafi. Il y eut ensuite Épervier pour protéger les régimes d'Issénabré et d'Idriss Déby face aux groupes rebelles. Le Tchad, au centre du grand jeu, même l'opération Barkhane au Sahel avait son état-major à N'Djamena. Tous les officiers français y sont passés, se souvient le colonel des troupes de marine, Pierre de Jong.
Le Tchad, c'est une partie de ma jeunesse, mais aussi la jeunesse de tous les officiers français. La professionnalisation de l'armée française vient en partie des combats de 69 au Tchad, parce qu'on avait la Légion étrangère, mais il y avait des besoins, donc il a fallu professionnaliser une partie de l'armée française, dont le 3e régiment d'infanterie de marine qui avait un vrai besoin. Et donc cette construction autour de Tchad a fait qu'évidemment, l'histoire de l'armée française s'est inscrite dans l'histoire du Tchad.
Entre le Tchad et l'armée française, c'est une histoire intime, relève l'historien Christian Bouquet.
C'est quelque chose qui relève de l'émotion. Il y a tellement eu d'opérations et d'interventions militaires françaises sur ce territoire. Depuis que le commandant Lamy était mort sur les bords du fleuve Chari, il y a toute une mythologie qui fait que les militaires français ont un petit coup au cœur.
L'armée tchadienne est la plus efficace de la région, assure les officiers français, prêts à ouvrir un nouveau chapitre de leur relation avec le Tchad, une relation qui pour la première fois se fera sans présence permanente.
Ligne de défense avec Franck Alexandre, le Sénégal, lui, continue de négocier avec la France pour un départ de ses troupes du pays d'ici la fin 2025. Un cocktail aux notes acides surmonté d'une mousse généreuse. Il n'est pas rare en Amérique latine de voir touristes et locaux siroter le Pisco Sour. Ce cocktail à base de pisco, une eau de vie et de citron vert est né en Amérique du Sud. Mais le Chili et le Pérou qui en ont fait leur boisson nationale se disputent sur sa paternité. Retour sur une querelle vieille d'un siècle à l'occasion de la journée internationale du Pisco Sour. C'était hier. Reportage à Santiago de Marion Bellal.
Il faut bien l'avouer, c'est le Chili qui a mis le feu en revendiquant le premier la paternité du Pisco en 1931. Depuis, c'est la guerre avec le Pérou, chacun revendiquant le label appellation d'origine. La discorde a été ravivée en décembre dernier puisque l'UNESCO a certifié l'authenticité d'un ensemble de manuscrits péruviens qui attestent la production et la commercialisation de Pisco entre 1587 et 1613. C'est la preuve la plus ancienne à ce jour qui établirait donc l'origine de cette eau de vie au Pérou. Mais dans les rues de Santiago, quand on demande d'où vient le pisco, la réponse est immédiate.
Ah non, du Chili.
Eduardo, chilien et manifestement chauvin, nous confie les secrets de sa recette de pisco sour.
Ce n'est pas n'importe quel citron, il faut des citrons plus petits, qu'on appelle ici le citron de pica. Et bien sûr, un bon pisco. Moi, j'utilise du chilien.
À proximité, Horacio, qui est d'ailleurs en pleine dégustation d'un pisco sour, est en désaccord.
Le pisco péruvien, il est plus doux, donc pour un pisco sour, il est plus agréable. Notre pisco chilien, il est plus puissant pour ainsi dire.
Dans le quartier très touristique de Las Tarrias, si on veut boire un pisco sour, ce sera au restaurant Chipe Libre. Et il est géré par un Français, Jérôme, installé au Chili depuis 26 ans, qui pourrait bien avoir trouvé la réponse à cette discorde chilo-péruvienne.
C'est chi de Chili et pé de Pérou. Et en fait, l'idée de Chipe Libre, c'est que le pisco en a eu assez, il en a eu marre de ses batailles. Donc il a fait sa révolution, il a annexé le sud du Pérou et le nord du Chili, il a créé sa propre république.
Pour ce spécialiste, chaque pays a du bon pisco, mais avec quelques différences.
Par exemple, au Chili, on passe le pisco dans des barriques de bois. Au Pérou, le bois est interdit. On ne travaille pas non plus les mêmes raisins.
Si cette querelle est bien sûr culturelle, l'enjeu est aussi économique. Pour le Chili, les exportations de pisco rapportent presque 3 millions d'euros. Pour le Pérou, ça grimpe à près de 7 millions. Depuis son restaurant indépendantiste, Jérôme regrette que les deux pays n'unissent pas plus leurs forces pour faire connaître cet alcool au-delà de leurs frontières.
Malheureusement, aujourd'hui, ce qui bloque le développement du pisco, c'est cette guerre ridicule entre le Pérou et le Chili. Ils dépensent leur budget dans des procès et des avocats.
Aujourd'hui, la majorité des exportations des deux pays se font vers les États-Unis, le Japon et l'Espagne. Alors à savoir tout de même si vous en trouvez en France, le pisco pur, péruvien ou chilien, c'est entre 30 et 45 degrés d'alcool. Marion Bellal, Santiago, RFI.
Le reportage international à retrouver, à réécouter sur notre site RFI.fr ou bien sur notre application Pure Radio. À 4h20, en temps universel, la chronique Vivre ailleurs, chronique sur l'expatriation. Ce matin, on parle de l'enseignement dans les établissements de l'étranger. Les professeurs y ont souvent davantage besoin de formation, voire de remise à niveau, que leurs collègues en hexagone. La mission laïque française, qui gère une soixantaine d'établissements français à l'étranger, a organisé pour cela une rencontre, le dossier de Corinne Mandjou.
Mon entrée dans cette thématique, c'est de commencer par parler des malaises dans l'interculturalité.
Francis Akindes, professeur de sociologie à l'université de Boaké en Côte d'Ivoire.
Les identités s'actualisent et elles développent une espèce de conflictualité. Et ça se sent dans l'espace scolaire. Les enseignants le vivent parce que les questionnements sont multiples.
Et pour solutionner ces multiples questionnements, il faut d'abord veiller à ce que les professeurs à l'étranger aient une formation adaptée aux différents environnements. C'est la mission du réseau Canopé, une structure de l'éducation nationale chargée de la formation des enseignants, notamment en expatriation. Marie-Caroline Missire, directrice générale de cette institution.
À l'étranger, nous produisons des parcours de formation pour les nouveaux enseignants. Notre action dans l'espace francophone, dans une vingtaine de pays, ont été multipliées par 5 depuis la pandémie mondiale et un besoin croissant d'expertise sur le numérique, mais pas seulement, puisqu'on est aujourd'hui au niveau mondial confronté à une crise de recrutement, un besoin aussi d'accompagnement dans le développement de l'enseignement du français dans un certain nombre de pays.
Les formations dispensées par ce réseau dans les pays étrangers ne se font pas sans difficulté, notamment en Afrique. Margot Bonpin, la coordinatrice des projets internationaux chez Canopé, nous précise lesquels.
Une difficulté première est l'accès à l'ensemble du public cible dans des zones reculées où il y a des conditions logistiques en fait difficiles de pouvoir accéder. Je pense par exemple dans certaines zones du Tchad, voire même en Égypte, mais pas que. La difficulté d'accéder à l'ensemble des gouvernorats. Il y a une deuxième difficulté, c'est le manque d'infrastructures ou de connexion Internet, ou une connexion Internet suffisamment stable pour pouvoir accéder à des outils en ligne. Voilà, avec parfois une manque de connaissances des enseignants par rapport à ces outils.
Francis Akindes.
Aussi dans les pays d'Afrique francophone, la question de la relation entre la France et l'Afrique revient sur la scène, mais avec des lectures très conflictuelles de cette relation, aidée évidemment par Wagner et tout le reste. Et si on nie cette vérité, la France risque encore d'avoir des problèmes à travers les écoles qu'elle développe, ou même d'amplifier ces problèmes par ce que les jeunes pourraient interpréter comme un rapport difficile à la vérité, dont on ne veut pas changer les paramètres.
Est-ce à dire que les questions identitaires doivent être repensées dans l'enseignement français à l'étranger, Francis Akindes?
Il n'y a pas que les aspects identitaires dans la crise de l'interculturalité, il y a toute la question des tensions entre les générations. Les jeunes ne comprennent plus le formateur, et les formateurs de moins en moins comprennent les jeunes, et les formateurs essayent d'adapter les instruments, mais de leur point de vue, alors que ces jeunes, leur imaginaire a muté. Aujourd'hui, les jeunes sont attirés par les métiers qu'on peut exercer après un apprentissage rapide, ou même presque sans apprentissage, les musiciens qui ont émergé de façon très spontanée, les influenceurs, voilà les types de professions qui les attirent. La culture de la patience que leur propose l'école leur paraît complètement désuète. L'enseignant, il est désemparé.
Canopée doit tenir compte de tous ces paramètres, y compris dans la formation des locaux recrutés sur place dans les pays d'accueil. Marie-Caroline Missire.
Oui, également, qu'aujourd'hui, les détachements deviennent de plus en plus difficiles. On travaille aux côtés des enseignants locaux, en se rendant sur place, bien évidemment, mais aussi en co-construisant dans cette position très horizontale, je dirais.
Le réseau Canopée dispose à ce jour d'un peu plus de 1200 formateurs.
Corinne Mandjou pour la chronique Vivre ailleurs tous les samedis et dimanches sur RFI. Dans quelques minutes, le retour de l'actualité africaine avec Sébastien Duhamel, la situation en RDC à la une. Mais avant, le rendez-vous c'est dans ta nature, la chronique des animaux et des plantes. Aujourd'hui, la communication entre les espèces, les crocodiles par exemple, savent bien reconnaître les pleurs de bébés et ils accourent aussitôt. C'est le résultat d'une expérience scientifique, Florent Guignard nous en dit plus.
Quand un bébé pleure, vous le prenez dans vos bras pour le consoler. Les crocodiles aussi se précipitent, mais pour une toute autre raison, comme l'a montré une étude réalisée pour confirmer une hypothèse du naturaliste Darwin au 19e siècle.
On estime que l'ensemble des vertébrés ont un appareil vocal qui est assez proche.
Différentes espèces de vertébrés seraient capables d'une certaine manière de communiquer entre elles. En tout cas, de comprendre un message émotionnel véhiculé par les cris des différentes espèces animales.
Nicolas Grimaud est chercheur au CNRS. Il fait partie de l'équipe du Centre de recherche en neurosciences de Lyon qui a réalisé cette expérience avec des crocodiles du Nil, au zoo d'Agadir, au Maroc, en diffusant des cris de détresse de chimpanzés ou de petits d'hommes. Et le résultat fut sans appel.
Parfois, les crocodiles se rapprochaient juste du haut-parleur pour venir voir ce qui se passait. Et parfois, on a eu des attaques assez claires, hein, c'est-à-dire que le crocodile venait et essayait de saisir dans la mâchoire le haut-parleur. Donc, on était obligé de remonter en quatrième vitesse le haut-parleur avec la corde avant qu'il se fasse croquer par le crocodile.
Mieux que nous humains, les crocodiles perçoivent la détresse dans un cri et c'est un avantage indéniable pour ces prédateurs partisans du moindre effort, Nicolas Grimaud.
Les crocodiles sont des animaux à sang froid et donc ils économisent toujours beaucoup leur énergie, ils sont opportunistes et vont aller au moindre effort pour se nourrir. Donc plus un animal va être potentiellement en détresse et donc blessé ou sans la surveillance de la femelle, par exemple, pour les bébés, plus il va être une proie facile.
Une expérience similaire avait été réalisée aux États-Unis avec des biches, mais elle venait porter secours. Les biches, c'est vrai, ne sont pas des prédateurs.
Ah, les crocs-crocs, les crocs-crocs, les crocodiles, sur le bord du Nil, ils sont partis.
On passe à la question.
Je parle bien le mamanais ?
Ah, c'est pas mal, hein. Le mamanais, ce n'est pas la langue de mamane, mais la langue des mamans, la façon qu'ont les humains de s'adresser au bébé avec une voix plus aiguë, plus chantante. Ce parler bébé qui facilite la communication, on a découvert qu'il était aussi pratiqué par les femelles dauphins qui élèvent seuls leurs petits pendant plusieurs années. Voici un sifflement normal. Et là, quand elles s'adressent à leur progéniture... Un exemple de plus des similitudes entre les humains et les dauphins d'anciens mammifères terrestres. Pour autant, les bébés dauphins ne crient pas comme ça. Non, en fait, là, ce qu'on entend, ce n'est pas un bébé qui pleure, mais un oiseau lyre, connu pour ses talents d'imitateur. Il manquerait plus qu'il attire les crocos.
Ah, les crocs-crocs, les crocs-crocs, les crocodiles, sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crocs-crocs, les crocs-crocs, les crocodiles, sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, les crocs-crocs, les crocs-crocs, les crocodiles, sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus.
Ah, les crocodiles de Julien Doré pour refermer cette chronique. C'est dans ta nature. Et c'est la fin de cette édition, de cette tranche d'information. Merci à Michael Verne qui l'a réalisé. Dans une demi-heure, c'est le début de RFI Matin avec Julien Coquel-Roem. Mais avant, dans un peu plus d'une minute, vous retrouvez Sébastien Duhamel pour une demi-heure d'actualité africaine. La situation dans l'est de la RDC. À la une.
Le Club RFI, Éric Amiens.
Cette semaine, le Club RFI Boutembo, en République démocratique du Congo, présente son initiative réalisée à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, célébrée le 24 janvier dernier. Le club a organisé une rencontre autour du thème « Intelligence artificielle et éducation ».
Le Club RFI, Éric Amiens.
Tout à l'heure, à partir de 19h40.
RFI.
Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.